France Musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de choisir le 8-9 de France Musique pour commencer votre journée du 22 août 2020. Les sujets de cette émission, et si la cornemuse n'était pas que pour la musique celtique avec François Lazarevitch. À 8h10, le jeu, un disque Vivaldi à gagner. À 8h15, le bilan de l'actualité musicale de la semaine. À 8h20, public masqué, quelles conséquences pour les artistes sur scène. À 8h30, l'agenda de l'été. À 8h35, préparez la rentrée avec Michel Aurier, directeur de la musique à Radio France, Jean-Philippe Thiélet, président du Centre National de Musique, et Nicolas Drouin, trésorier du syndicat Les Forces Musicales. À 8h40, l'invité du jour sera Jean-Christophe Spinozzi, et à 8h50, pour la petite histoire, un autre 22 août, l'assassinat de Michael Collins en Irlande en 1920. Voilà, vous savez tout, musique. La musique de Henri Purcell pour démarrer ce 8-9, un extrait de The Fairy Queen par les musiciens de Saint-Julien. Et si la cornemuse n'était pas que l'instrument écossais que nous connaissons bien? C'est le premier sujet de cette émission. Pour nous en parler, François Lazarevitch. Il est flûtiste et il est aussi spécialisé dans la cornemuse historique. Si aujourd'hui le grand public connaît mieux la traditionnelle cornemuse écossaise du XVIIIe siècle, qui a trois bourdons pour faire des notes graves tenues en dessous de la mélodie, on connaît peut-être un peu moins bien son histoire. Il s'agit d'un instrument millénaire, multiforme, qui n'est pas toujours joué en extérieur. François Lazarevitch sera l'invité des musicales de Normandie demain à 19h à l'abbaye de Jumièges pour un concert 1000 ans de cornemuse. Il nous explique que dans la famille des cornemuses, on y trouve beaucoup de choses.
Il y a tout, c'est-à-dire que la musette baroque, c'est un instrument intercylindrique, contrairement à la cornemuse écossaise ou à la cabrette ou d'autres cornemuses qui ont une persconie, qui donne un son plus puissant. Donc cette paire cylindrique de la musette baroque, elle est en plus très fine, vraiment très petite, les cordes sont très 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 petites. Et c'est un instrument qui est un instrument de musique de chambre, et qui a permis aussi de l'intégrer dans la musique de chambre et puis aussi dans l'opéra, puisqu'il y a aussi des scènes pastorales dans pas mal d'opéras entre Lully et Rameau, qui incluent la musette. Alors elle participe participe évidemment pas à tout l'opéra, elle est là uniquement pour ses scènes pastorales. En général, ça dure 2-3 airs, ça dépend, hein, ça peut être plus ou moins développé. Et Rameau, il a écrit vraiment des petits chefs-d'œuvre pour la musette.
Le son de la musette baroque, petite cornemuse savante du XVIIIe siècle, qui peut donc se jouer dans les petits ensembles de musique de chambre. C'était une suite de Trois branles de village de Borjon de Sellery par les musiciens de Saint-Julien et François Lazarevitch pour les Normands. Rendez-vous à l'abbaye de Jumièges demain à 19h. France Musique, 8h08, c'est le jeu. Gagner un disque de musique de concerto pour violon de Vivaldi par les musiciens du Concert de la Loge avec leur chef violoniste Julien Chauvin. Pour le gagner, rendez-vous sur la page de ce 8-9 sur francemusique.fr et sur l'onglet Contactez-nous. Une question culture musicale sur Vivaldi. Qui a composé l'arrangement que nous allons entendre? Philippe Glass, Max Richter ou Jean-Sébastien Bach? Dépêchez-vous.
Thank you.
dernier mouvement du concerto pour violon en sol mineur RV 321 d'Antonio Vivaldi par Julien Chauvin au violon et ses musiciens du concert de la Loge. Précédé d'un morceau mystère, de qui? Glass, Bach ou Richter? Telle est la question. France Musique 8h14, c'est l'heure du bilan de l'actualité musicale de la semaine. Lundi, nous perdions le guitariste britannique et pionnier de la musique ancienne, Julian Bream. Mardi, en Allemagne, on commence à parler d'une détente dans les protocoles sanitaires des salles de concert de Berlin. De une place sur quatre, certains scientifiques allemands ne voient pas d'inconvénient à passer à une jauge pleine. Le gouvernement allemand s'avoue quand même surpris. Mercredi, promesse tenue pour Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture qui avait débuté son mandat en exprimant son souhait de rencontrer les représentants du monde culturel. Le sujet de ses entretiens commençait mercredi avec le secteur du théâtre privé et des musiques actuelles, la rentrée et la fin possible de la distanciation physique avec quand même le maintien du port du masque. Jeudi, direction l'Angleterre où nous apprenions que le chef britannique Simon Rattle dirigera le 5 septembre prochain le concert des 100 ans de l'orchestre symphonique de Birmingham qui a été son orchestre de 1980 à 1998. Et puis hier, vendredi, c'est une page de l'histoire du jazz qui s'est tournée, discrètement en France, à Chatou dans les Yvelines. Le décès à l'âge de 100 ans de Harold Joseph Singer, Hal Singer tel qu'il était connu, saxophoniste qui a connu les plus grandes heures du jazz américain dès les années 30. Il avait joué avec Roy Eldridge, Coleman Hawkins, Duke Ellington, Red Allen ou encore Billie Holiday. Un hommage, You Don't Know What Love Is, Hal Singer, est accompagné par Bernard Maury au piano. Christy Halsinger au saxophone et Bernard Maury au piano. France Musique, il est 8h19.
Musique Matin, le 8-9 de Christophe Dillis. France Musique, c'est l'été.
La semaine dernière, lors du 8-9, nous vous avions demandé comment vous viviez l'expérience du concert en portant un masque. Cette semaine, c'est l'inverse. Public masqué, quelles conséquences pour les artistes sur scène? On ne réalise pas toujours l'impact que nous avons en tant que public sur les artistes sur scène et sur leur façon de faire de la musique. Est-ce plus difficile d'être musicien lorsque le public est masqué? Nous avons donné la parole à quelques-uns d'entre eux. Pour Adrien, artiste de musique ancienne, le masque est plus qu'une gêne.
Bah, c'est pas que ça gêne, c'est que en fait le fait que les gens soient masqués empêche complètement le contact avec le public. Et quand on fait un concert, un spectacle où il n'y a pas d'interaction avec le public, c'est peut-être un peu moins gênant, mais encore ça resterait à discuter. Et ben c'est vrai qu'on voit pas du tout leur interaction et ben on se sent vite seul, quoi. Donc on voit pas les sourires, on voit pas les réactions du public, et c'est vraiment quelque chose qui est contraignant à ce niveau-là. Ça c'est vraiment pour l'aspect artistique. Et puis ben pour l'aspect purement pratique, c'est un enfer à gérer, hein. C'est vraiment difficile.
Et musicalement, ça vous a un peu déconcentré?
Bah oui, c'est déconcentrant dans le genre où, par exemple, on termine un morceau avec une énorme cadence et on se dit on a senti quelque chose d'assez fort et il se passe rien. Alors évidemment, on a l'habitude que les gens évidemment n'applaudissent pas forcément entre chaque pièce, mais là il y a même plus de contact, quoi. On joue devant des gens vraiment masqués qui sont, il y a vraiment, ça fait une barrière, quoi, entre les artistes et le public.
Adrien, professionnel de la musique ancienne, Stéphane est claveciniste et chef d'orchestre et revient sur l'importance de l'interaction avec le public.
Bah, la chose qui est sûre, c'est que le rapport qu'on a habituellement avec le public est nécessairement faussé, parce qu'on sait toutes les expressions que le public envoie d'habitude nous renvoient une image de ce que le public pense, et pas seulement les applaudissements, mais les gens qui sont heureux, les gens qui sourient. Nous, on a vu des gens venir nous voir à la fin, par exemple, et nous dire « Voilà, on a essayé de vous montrer avec nos yeux combien on était heureux, mais c'est difficile parce qu'avec les masques, on peut pas vous sourire quand on vous voit en concert. » Même si c'est pendant les applaudissements ou si c'est pendant le jeu, pour le cas d'un soliste qui est de face, par exemple. À la fois, on fait le concert parce qu'on joue et on est là pour ça. Et en même temps, cette espèce de flux qui passe inconsciemment entre le public et nous est faussé. Et cette chose-là, elle est jamais dite, mais elle est totalement réelle. Le public transforme l'expérience de l'interprétation parce que c'est un échange permanent entre le public et l'interprète. C'est cette chose-là qui nous fait vivre, finalement.
Le public qui transforme l'interprétation, selon Stéphane, chef d'orchestre. Eva est mezzo-soprano, elle n'a pas été gênée. Le contact avec le public se fait de toute façon, surtout avec les yeux.
Le fait que le public soit masqué, ça me laissait penser que on n'allait pas du tout pouvoir voir leur réaction, voir leurs émotions. Et en fait, on se rend compte que tout passe par les yeux. Et le corps aussi, le corps parle beaucoup. On voit toutes leurs réactions, on voit s'ils dorment, s'ils regardent leur téléphone portable, s'ils sont tendus à nos lèvres, s'ils sont dans un état second, s'ils sont intéressés ou pas du tout, et ça nous renvoie une énergie. C'est un échange, quoi. Un concert, c'est un échange autant de nous vers eux que eux vers nous.
Voilà, si vous ne le saviez pas encore, pas d'anonymat donc quand vous êtes dans le public. Nous sommes bien acteurs de ce qui se passe sur scène. Pour Axel, chanteuse également, le masque fait maintenant partie de l'expérience et elle a décidé d'en tirer parti. C'est un apprentissage de laisser le public dans sa bulle.
Effectivement, de ne pas voir les visages sourire, c'est un peu bizarre. Concert, on a l'impression que toutes nos blagues tombent un peu à plat. Ça donne un peu cette sensation-là, alors qu'en fait, les gens le reçoivent très bien, mais c'est juste qu'on n'a plus la même relation du tout. C'est un peu un piège, parce que du coup, on a envie d'aller encore plus chercher le public, et c'est dans ces moments-là où on est fausse, en fait. C'est un apprentissage, hein, de jouer face à un public masqué. C'est pas mal, hein, ça, vous allez chercher des nouvelles ressources à l'intérieur. Faut accepter de lâcher le contrôle, et puis aussi, il faut se dire qu'on crée de l'espace pour que les gens puissent imaginer ce qu'ils veulent. Donc finalement, le masque crée la barrière peut-être intéressante à l'imaginaire. En tout cas, ils ont leur propre imaginaire et nous, on n'a pas à plaquer quoi que ce soit.
La chanteuse lyrique Axel, laissons le mot de la fin à Susanna. Elle est pianiste et pour elle, ce qui compte, c'est l'émotion de pouvoir rejouer devant un public.
Non, je n'ai pas du tout été gênée. C'était plutôt très porteur parce que on sentait la grande joie des gens d'être là. C'était un moment très particulier. Surtout, j'ai senti beaucoup d'émotions en général à jouer parce que on se rendait plus compte à quel point c'était spécial que le public soit là, qu'il soit masqué ou non. Disons que cette présence se fait ressentir quand même très fortement. Et donc, j'avoue que j'avais des émotions que je n'avais pas ressenties depuis quelque temps quand on est dans le tourbillon des concerts. C'est vrai que c'était très très émouvant. Il y avait un côté nouveau. Ça c'est indéniable. Et puis on sait que les gens qui sont là ont traversé leur peur et c'est la joie qui a vaincu et qui les a décidé d'être présents. Il y a un bon côté dans toute cette crise, c'est qu'au moins ça nous permet de nous recentrer sur ce qui est vraiment important et ce qui est important, c'est vraiment la musique et le partage avec le public.
Le matin d'un jour de fête, tiré de Liberia de Claude Debussy, réduit pour deux pianos et joué par le duo Benzakoun. France Musique, il est 8h30, c'est l'agenda de l'été. N'allez pas chercher votre crayon, vous pourrez trouver tous les détails des festivals dont nous parlons sur la page du 8-9 sur francemusique.fr. www.carmelite.fr. Pour les Toulousains, musique et dialogue au Carmélite commence samedi prochain 29 août avec une programmation Bach, Berlioz et Beethoven. À Arc-la-Bataille, l'Académie Bach se tiendra jusqu'au 25 août. Nous en parlions au début de ce 8-9. Les musicales de Normandie jusqu'au 29 août avec quelques villes comme Jumièges, Rouen ou le Petit Quevilly. Rendez-vous sur la page de ce 8-9 pour plus de renseignements sur tous ces festivals. Et puis si vous êtes dans la région d'Angers, musique baroque à Savenières jusqu'au 30 août, vous risquez d'entendre quelque chose comme ceci. Sonata da Camera à trait en sol majeur numéro 12 de Corelli par les musiciens du Consort avec Julien Taylor au clavecin. France Musique 8h33, nous sommes le 22 août 2020, la rentrée se prépare doucement. Nous apprenions hier que Jean-Michel Blanquer prévoyait bien de maintenir la rentrée des classes le mardi 1er septembre avec masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans. Côté institution culturelle, la rentrée arrive aussi très vite, avec son lot de questions. Adaptation des concerts, mise en sécurité des interprètes. Michel Aurier, directeur de la musique à Radio France.
Moi, ma position, c'est de trouver le chemin de crête. Hein. C'est de trouver la voie pour que les musiciens soient protégés, que le public soit protégé, mais qu'en même temps, on puisse vivre, parce qu'il va falloir vivre avec le virus. Voilà, et ça, on ne sait pas pour combien de temps on en a, on ne sait même pas si on arrivera à le maîtriser correctement, etc. Donc ma responsabilité, elle est là, c'est de faire en sorte que les musiciens de la maison ne puissent pas être contaminés dans l'exercice de leur métier, mais qu'en même temps, il soit possible pour eux d'exercer leur métier comme pour les autres catégories de salariés à Radio France.
Michel Aurier, qui a pu tirer quelques conclusions des concerts réduits et adaptés des formations musicales de la maison au début de cet été.
Sur les concerts du début de l'été, ça a permis une chose qui était essentielle. D'abord, c'était aux musiciens de pouvoir rejouer et de retrouver une cohésion de groupe, une confiance en eux, etc. C'était sur ce plan-là, c'était extrêmement important. Et après, on a pu tester concrètement aussi ce que, enfin, les implications des mesures sanitaires qu'on nous imposait. On a réussi à réduire les distanciations par rapport au schéma de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mètre entre les cordes et puis un mètre et demi entre les vents. Et ça, c'est ce qui est communément admis maintenant dans la communauté musicale et scientifique. Et là-dessus, on a été un petit peu précurseur quand même. On a quand même pu faire un peu bouger les lignes.
Michel Aurier, directeur de la musique à Radio France, de façon plus générale sur le territoire, préparer la rentrée, c'est aussi faire le bilan des actions et des efforts financiers menés par le ministère de la Culture et du gouvernement en faveur du secteur culturel. Jean-Philippe Thiélé, président du Centre National de la Musique, reconnaît que la crise aura mis la question de la culture à l'avant-plan des préoccupations du gouvernement.
La France et l'État, de même que les collectivités territoriales du reste, ont mobilisé énormément de moyens pour soutenir la culture et la filière musicale. Il y a eu l'année blanche pour les intermittents, mais il y a plein d'artistes et de salariés qui ne sont pas intermittents. Il y a eu les reports et les annulations de charges. Et puis pour le Centre National de la Musique, il y a eu d'abord une vingtaine de millions qu'on a mobilisés très rapidement dès avril, pour un millier d'entreprises, dont plus d'une centaine dans le champ du classique, et puis les 50 millions d'euros qui ont été votés cet été pour le Centre National de la Musique. Maintenant, on attend le plan de relance, qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Il faut mobiliser énormément de moyens sur la saison 2021 et sur le printemps et l'été 21.
Jean-Philippe Thiélé, président du Centre National de la Musique, opérateur du ministère, en contact quotidien avec les équipes. L'automne va être difficile, selon Jean-Philippe Thiélé, qui se félicite, en attendant le plan de relance, que toute faillite a été évitée dans le domaine de la musique. Côté orchestre et opéra en France, il faut faire sa rentrée de toute urgence et sans attendre, selon Nicolas Drouin, trésorier du syndicat Les Forces Musicales.
Il faut que nous puissions adapter littéralement les protocoles, tirer des conclusions des expériences faites à l'étranger, en particulier en Allemagne, en Autriche, et relancer la machine. L'état du secteur est absolument épouvantable. Nous ne pouvons plus être à l'arrêt. Nous ne pouvons plus attendre. Les opéras ne peuvent plus rester dans cette incertitude complète. Les orchestres non plus. Et il faut qu'on ait des protocoles très pragmatiques qui permettent le redémarrage.
La musique d'Alexandre Glazounov, un extrait tiré du ballet Raymonda par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Paavo Järvi. France Musique, 8h41, c'est l'heure de l'invité du jour.
Musique Matin, le 8-9 de Christophe Divis. France Musique, c'est l'été.
Je reçois en direct par téléphone le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi qui sera en concert avec son ensemble Mathéus à partir de lundi pour toute la semaine à la collégiale Saint-Pierre de Sifour-les-Plages dans le Var. Bonjour Jean-Christophe Spinozzi.
Bonjour.
Alors à l'heure où les concerts se maintiennent en version réduite pour le plus grand bonheur des ensembles de musique de chambre, vous avez réussi à maintenir un programme d'orchestre avec l'Olympiade et le Magnificat de Vivaldi, ainsi que la Symphonie Jupiter de Mozart, ce qui veut dire orchestre et chœur. J'ai l'impression qu'il faut saluer le courage des équipes du Festival de Sifour-les-Plages.
Oui, c'est magnifique. Depuis plusieurs années que ce festival existe, il redouble d'énergie pour organiser un festival sur une semaine et avec différents programmes de leur magnifique collégiale qui est dans, sur les hauteurs et qui a une vue sur la mer et surtout Toulon. Et ils sont là, on a imaginé avec eux le fait de pouvoir se servir de l'inconvénient de la distanciation sociale et de tout le protocole sanitaire pour pouvoir finalement faire des éléments de dramaturgie du festival et du concert. Par exemple, pour la symphonie Jupiter, on va s'étaler l'orchestre dans toute la bastiale et avec des marques au sol pour le public et pour les musiciens de l'orchestre. Donc, on va pouvoir utiliser la totalité de la normalement il y a des emplacements sur les côtés où qui sont sans visibilité et le chef d'orchestre va se retrouver au cœur de la bastiale. Donc, on aura plus de distance entre les personnes, musiciens et public et en même temps on aura une spatialisation complètement différente des habitudes du concert. Et avec ce genre de nouvelles donnes, on va essayer de surmonter les problèmes actuels et en faire des éléments artistiques nouveaux. Voilà, on va voir ce que ça donne.
Quand on entend musique spatialisée dans une église, on pense plutôt à la musique peut-être vénitienne du XVIIe. Là, pour Mozart, est-ce que au niveau de la mise en place et au niveau des problématiques purement musicales, ça ne gêne pas trop?
Alors, ça, c'est un pari, mais je crois que vraiment, s'il y a un moment où on doit essayer, où la fenêtre s'ouvre pour l'imagination et pour découvrir sous d'autres angles des œuvres qu'on connaît, c'est le moment. Après, la complexité de la symphonie, la symphonie Jupiter, que le public puisse être au cœur des rouages de l'horloge. De cette symphonie, je trouve vraiment ça intéressant de la découvrir de l'intérieur, puisque ça fait partie des œuvres qu'on aime analyser, même pour le grand public. Il y a des gens qui font ça très bien, et c'est aussi un sujet du bac musique avec toutes les analyses qui vont avec, etc. C'est une musique exemplaire dans ce sens-là. Et pour le spectateur qui est profane, néophyte en musique, se retrouver vraiment jouer, je donnais cette image, au cœur des rouages de l'horloge de la Jupiter. Ça va être, j'espère, un moment unique.
Alors, vous parlez de la Jupiter de Mozart, donc ça, ce sera le samedi 29 août à 20h30. Mais vous démarrez la semaine avec une entrée au répertoire, j'ai l'impression, l'Olympiade de Vivaldi. C'est nouveau pour l'ensemble Mathéus.
Oui, alors pendant plusieurs années, dans les années 2000, on a travaillé d'arrache-pied sur la redécouverte du répertoire vivaldien et en particulier du répertoire opératique. À l'époque, on avait enregistré quatre opéras et ça se faisait pas encore de se retourner sur. On connaissait bien sûr tous les opéras de Handel et de plein de compositeurs baroques, mais Vivaldi, comme grand compositeur de l'histoire de la musique, avait son œuvre opératique absolument qui est inconnue, qui restait cachée. On connaissait un petit peu Orlando Furioso, mais voilà. Alors, donc on a enregistré quatre opéras, La Rinascimento, Orlando Furioso, La Griselda et La Fida Ninfa. Et depuis une dizaine d'années, on était passé à autre chose et on reprend cet opéra qui est un opéra de maturité, Dizaldi, c'est vraiment un des plus beaux, l'Olympiade et le livret se passe au moment des Jeux Olympiques. C'est un livret qui avait été utilisé par plusieurs autres compositeurs, mais cet opéra de Vivaldi, de tous les opéras que je connaisse, on a la plus belle collection d'air. C'est vraiment une succession de hits, et donc c'est quelque chose qu'on inaugure à Sifour et qu'on va, j'espère, arriver à tourner pendant pas mal d'années, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et le donner dans plusieurs formes, en version de concert, en version scénique, en version ballet, avec aussi des extraits, des arrangements, etc. On va décliner notre programme Olympiade comme une route jusqu'à Paris 2024.
Bien, c'est un très élégant sens de la propos, Jean-Christophe Spinozzi. L'Olympiade donc d'Antonio Vivaldi qui reste à enregistrer par l'ensemble Matheus. Il se trouve quand même que vous avez enregistré la Sinfonia d'ouverture, donc c'est qu'on va écouter, dirigée par vous. Merci beaucoup, Jean-Christophe Spinozzi, et bonne semaine à Sifour, les plages dans le Var. La Sinfonia de l'Olympiade d'Antonio Vivaldi, l'ensemble Matheus, c'était dirigé par Jean-Christophe Spinozzi. Vous écoutez France Musique, il est pile 8h50, c'est l'heure de Pour la petite histoire. Aujourd'hui, un autre 22 août, le 22 août 1922, le jour de l'assassinat de Michael Collins.
Wavy, stop. Roll back.
Stop trying to fucking kill me. Get down!
Nous sommes en 1922, la guerre d'indépendance de l'Irlande, proprement dite, est terminée. S'ensuit une guerre civile en Irlande de 1922 à 1924 au sein des indépendantistes irlandais qui ne pouvaient pas se mettre d'accord sur le traité de Londres qui prévoyait le partitionnement de l'Irlande en nord et sud, la création d'un État libre d'Irlande possédant le statut de dominion et l'officialisation d'un serment d'allégeance à la couronne britannique. Parmi les pro-traités de Londres, Michael Collins, qui dirigera l'armée nationale d'Irlande contre l'IRA, l'armée républicaine irlandaise de Éamon de Valera. Le 22 août 1922, les partisans de l'État libre gagnent du terrain. Michael Collins part inspecter les régions récemment libérées. Il se dirige avec un convoi vers la ville de Cork et il sera victime d'une balle en pleine tête lors d'une embuscade tendue par les forces opposées au traité de Londres. Je vous propose d'écouter Forgive You, ballade qui raconte l'insurrection de Pâques 1916, échec militaire pour les insurgés républicains, mais une victoire idéologique puisque la répression féroce des Britanniques qui s'en est suivie a piqué au vif les nationalistes les plus modérés. Sinead O'Connor est accompagnée par les Chieftains.
School.
The Forgive You, Sinead O'Connor et les Chieftains pour clore ce dernier 8-9 de la grille d'été qui a été préparé et réalisé par Laurent Lefrançois, Valentin Bobinet et Cindy Le Grumelec et ainsi que Dorothée Gold. Encore quelques minutes de musique. Semaine prochaine, même heure, c'est Saskia Deville qui reprend les commandes de cette matinale du samedi. Je vous retrouve quant à moi samedi prochain à 9h50 pour une nouvelle saison de Tendez l'oreille dans la fabuleuse équipe de France Musique. Et à vous, je vous laisse en compagnie de Priscille Lafitte et de son été classique matin. Priscille Lafitte qui, en fin d'année, était au micro de cette même matinale. Rien n'est à sa place, c'est une vraie valse, Priscille, ce qui n'est pas pour vous déplaire, j'ai l'impression.
Mais vous avez tout compris dans la programmation, comment vous avez fait?
Moi, je suis très fort et puis je vais aller sur francemusique.fr.
À la prochaine, Christophe, je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.